Alors, bienvenue dans cette série de balados intitulée « Leadership en confiance », une collaboration entre parents partenaires en éducation et le conseil scolaire Viamonde. Je suis Mélanie Gatt, coach certifiée et consultante pour la firme Discitus, et je vous accompagne tout au long de 5 épisodes durant lesquels on reviendra et on explorera les thèmes abordés lors des sessions de coaching avec les parents leaders du conseil scolaire Viamonde. Alors, cette série s'inscrit dans un projet d'engagement des parents soutenu par le comité de participation des parents du conseil scolaire Viamonde. À travers cette série, on va explorer ensemble les dimensions essentielles d'un leadership bienveillant, engagé et ancré dans la réalité des parents d'aujourd'hui. Alors que vous soyez déjà impliqué ou que vous envisagez de le devenir, on espère que ces échanges vous inspireront à jouer un rôle actif et confiant dans la vie scolaire de vos enfants. Pour clore cette série de balados, on aborde aujourd'hui un thème qui résonne avec beaucoup d'entre nous. Comment concilier vie familiale, responsabilité professionnelle, engagement bénévole et temps pour soi? Le leadership parental, ça peut être profondément valorisant, mais ça peut aussi devenir exigeant, voire épuisant, s'il n'est pas accompagné d'un bon ancrage personnel. Donc, j'accueille Sonia Macaluso de nouveau, qui nous parle de son cheminement personnel, des choix qu'elle a dû poser et de l'harmonie parfois fragile entre développement personnel, vie, travail et famille. Bonjour Sonia.
Bonjour Mélanie.
Alors, veux-tu, pour commencer, te présenter puis peut-être nous parler de cette harmonie développement personnel, vie, travail, famille?
Oh, ça me ferait plaisir et merci pour m'avoir invité aujourd'hui. Alors, mon nom, c'est Sonia Macaluso et je suis de Hamilton, Ontario. Je suis un parent bien impliqué dans la communauté francophone et je siège sur le conseil des parents d'une école secondaire de mes enfants à Viamonde, ainsi que au niveau du développement personnel, vie, travail, familial, des heures de bénévoles. Oh, je ne sais pas où commencer, des engagements, mais je suis la présidente de l'ACFO Hamilton ici et je vais permettre d'avancer parce qu'il y a tellement du travail bénévole que je fais que vraiment, je pense que tu as fait cet épisode exprès pour me parler, pour me donner un petit peu de clarté au niveau de ma vie.
Alors, dis-moi tout de suite, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans ce webinaire que j'ai donné?
Oh, vraiment, je pense que c'est juste la façon que tu as décrit où est-ce qu'on se trouve présentement dans la vie. Mmh. Et c'était quoi notre trajet? Comment est-ce qu'on peut se pencher sur notre passé? Comment est-ce qu'on peut naviguer les responsabilités d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans la communauté? Vraiment, tous les points que vous avez abordés, même juste la respiration à la toute fin, c'est quelque chose qui est tellement simple. Mais des fois, on oublie, hein?
Oui.
Alors, ça m'a vraiment parlé au sujet de trouver de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux mot de équilibre? Je ne connais pas du tout.
Et tu vois, souvent, quand on entend le mot équilibre, travail, famille, là, on dit souvent ça. Moi, je le remplace par l'harmonie. Parce que l'équilibre, on dirait qu'il y a comme une statistique de 50-50. Hein. J'ai la moitié dans une main, puis l'autre moitié dans une autre main. Alors que l'harmonie, ça pourrait être l'harmonie entre plusieurs choses, puis ça pourrait changer au fur et à mesure. Il y a peut-être des jours où mon travail va prendre 70% de la place, puis je vais laisser 30% pour famille, social, développement personnel. Puis il y a des fois où ça va peut-être être 60-40. Des fois, ça pourrait même être 30-30 et puis un autre pourcentage, peu importe lequel. C'est intéressant de voir comment des fois, c'est une harmonie qui pourrait évoluer, non pas être figée. On a parlé de charge mentale, Sonia. Quand tu entends le mot charge mentale, toi, ça te fait penser à quoi?
Ah, ça me fait penser à toutes les petites affaires de paperasse du jour. Mmh. Et même dans le webinaire, vous avez très bien décrit C'est quoi les charges mentales? Comme pour moi, les charges mentales, c'est je dois essayer de trouver du temps pour marcher les chiens, je dois trouver du temps pour préparer le déjeuner, je dois trouver du temps à faire des rendez-vous chez le médecin pour mes enfants, à préparer le dîner pour le lendemain. C'est les petites affaires des charges mentales, exactement comme tu l'avais écrit. C'est lourd, ça paraît pas beaucoup, mais tu dis, ah, j'ai oublié la fête de qui que ce soit. J'ai oublié que je dois aller apporter la voiture pour da-da-da-da-da. C'est vraiment lourd, c'est épuisant.
Exact, puis c'est encore plus épuisant que des fois, ça roule en arrière-plan, comme quelque chose qu'on pense pas consciemment, mais qui nous gruge de l'intérieur. Hein. C'est ça un peu la charge mentale, c'est comme la liste des choses à faire qui continue de rouler, même quand on a l'impression qu'on n'y pense pas. Et donc, ça vient vraiment nous gruger au niveau de l'énergie, au niveau de cette fatigue, de cette lourdeur, comme tu dis très bien. Une astuce qu'on donne pour ça, généralement, c'est de réduire les décisions et l'indécision. Je ne sais pas si tu en souviens, Sonia, mais je faisais référence notamment aux décisions qu'on prend, aux dizaines de milliers de décisions qu'on prend chaque jour. On prend à peu près une trentaine de mille de décisions chaque jour. C'est énorme, 30 000 décisions chaque jour. Alors, ça peut être très simple, hein, comme comment je m'habille aujourd'hui, mais comment je me maquille, comment je me coiffe. Mais ça pourrait être aussi, est-ce que je vais au travail? Est-ce que je vais en télétravail aujourd'hui? Est-ce que je prends ce chemin-là? Quel autre chemin je prends? Est-ce que je dépose d'abord cet enfant à garderie ou celui-là à l'école? Qu'est-ce que je prends pour déjeuner? Il y a plein de petites décisions qui se prennent comme ça. Des fois, on n'en a même pas conscience et ça nous gruge. Je me demande, Sonia, toi, comment tu fais pour gérer la prise de décision pour la rendre plus légère au quotidien?
J'ai toujours pratiqué moi-même la liste de priorités. Et tu as circulé sur ce sujet avec la matrice d'Eisenhower, mais moi, j'ai toujours eu une liste de les 5 affaires que je dois acquérir ces 5 éléments à la fin de la journée, puis le reste, comme tu l'as dit, c'est une routine si ça tombe dans ce domaine-là. Mais si je dois faire un rapport, je dois retourner ce courrier, je dois faire ce rendez-vous, et par après, si les premiers 5 éléments qui sont urgents, comme le tableau urgent, faire important, ou non urgent, planifier important, j'ai toujours joué avec ça, mais qu'est-ce qui me fait rire? C'est à un point, tu avais mentionné au niveau de tu connaissais une dame avec des post-it, puis que ce soit. J'ai trouvé ça tellement drôle parce que je suis une dame, j'ai les grosses post-it, puis j'ai des petits post-it que je déplace d'une boîte à l'autre. C'est justement la pratique parce que je suis quelqu'un visuel. Et je pense que tu avais même touché sur ça aussi durant la formation, le webinaire au sujet de quelqu'un visuel, que si vous êtes visuel, de vous faire un tableau comme ça. Et c'est justement qu'est-ce que je pratique.
Absolument. Puis merci de me rappeler cette matrice-là, la matrice d'Eisenhower. J'invite les gens qui nous écoutent à aller faire une petite recherche en ligne. Mais l'idée ici, c'est de se dire qu'il y a 4 cases dans la vie. Une qui est importante et urgente, l'autre importante mais pas urgente, l'autre urgente mais pas importante, et puis la dernière, c'est pas important et c'est pas urgent. À ce moment-là, c'est de se demander, OK, les tâches que j'ai à faire, où est-ce qu'elles vont vraiment? Tu sais, si je prends une pause, puis la cliente à laquelle je faisais référence, elle prenait des post-it, puis elle écrivait une chose à faire sur chaque post-it, et elle avait dessiné sur son mur cette matrice-là, alors qui au fond est juste 4 carrés, et puis d'aller poser les post-it à l'endroit où elle pense que ça devrait aller, et de s'y tenir, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui n'est pas urgent et pas important, belle affaire, c'est qu'il faut l'éliminer. C'est de l'éliminer. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour justement gérer un peu plus notre charge mentale. L'avantage des post-it, c'est que ça se bouge sur un mur. Donc, on peut vraiment aller le bouger puis se dire, ah, OK, peut-être que finalement, aujourd'hui, il est devenu important, mais pas urgent. Donc, ça nous aide énormément. Réduire les décisions, on l'a nommé. Hein, si je sais que, par exemple, tous les matins, j'apporte le premier enfant à la garderie, le deuxième à l'école, puis que c'est dans ce sens-là que je le fais. J'ai pas besoin de me poser la question, est-ce qu'aujourd'hui je le fais dans un sens ou dans l'autre? Si je sais, je sais pas moi, que tous les matins, je déjeune la même chose. Là. Au déjeuner, c'est la même chose que je mange. Moi, je prends un matcha et une toast avec une banane. Bon, ben voilà, peut-être que je mange ça tous les jours et puis j'ai pas besoin de me poser la question sur la suite. Il y a des personnes que je connaisse qui sont très organisées pour leur dîner. Hein. Sonia, tu faisais référence à tous les dîners qui sont à faire pour le reste de la semaine. Je connais des personnes qui vont faire leur liste d'épicerie une semaine à l'avance en fonction des repas et puis elles n'ont plus besoin de réfléchir à ce qu'elles vont cuisiner, elles le font. Donc ça, c'est vraiment la gestion des priorités importantes et urgentes. Je ne sais pas si tu te souviens, Sonia, on a parlé de la méthode Pomodoro pour gérer plus son temps, pour atteindre ses objectifs. Est-ce que toi, on avait déjà entendu parler de cette méthode-là, toi?
Juste lorsque tu l'avais mentionné.
OK. Puis, si tu devais nous expliquer, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parlerait? Est-ce que tu ferais cette méthode-là?
C'est difficile pour moi parce que au sujet des petits blocs de temps, tu sais, juste pour 5 minutes aussi, pour 25 minutes pour ça, etc., etc., on dirait qu'une fois que je me lance dans quelque chose, des fois, je peux perdre conscience du temps. Mm. Alors, c'est là que des fois, oui, je vais mettre une minuterie, mais si je n'ai pas encore clôturé, qu'est-ce que j'avais à faire? C'est difficile de me retirer, mais comme vous avez donné comme exemple un classe de yoga ou de juste prendre 5 minutes pour aller prendre une petite marche dehors, de prendre un respire, je pense que des fois, j'ai la difficulté de manipuler cette méthode parce que des fois, j'ai des projets un petit peu qui dépassent 20 minutes, des micro-minutes. Mais c'est de la pratique. Et c'est comme tu as partagé sur le webinaire. Des fois, c'est pas évident, mais à force de faire une routine, ça va venir que ça va être plus facile.
Exact. Puis c'est bon que tu apportes le mot routine parce que le mot routine, des fois, il peut être vu comme quelque chose de plate, qu'on veut pas faire, qui est comme redondant, désagréable. Alors qu'en fait, une routine, ça pourrait être comme un rituel, une tradition. Tiens, si on se dit, ben oui, moi, ma routine, c'est de me faire mon matcha le matin, ben ça, c'est une routine qui n'est pas plate pour moi, qui est agréable. Donc, la méthode Pomodoro, elle vise, alors évidemment, la routine, c'est ce qu'on a dit pour la charge mentale, ça nous aide, hein, la routine. Si on parle, par exemple, j'ai une autre cliente qui faisait ça avec le lavage des draps, dans lequel elle se disait, tous les deuxième et quatrième dimanches du mois, je ne me pose pas la question si mes draps sont sales, je les lave. J'ai une autre cliente, c'était encore sur le ménage, mais tous les deuxièmes jeudis du mois et le quatrième jeudi du mois, je lave mes salles de bain. Je ne me pose pas la question si elles sont sales ou pas, je le fais. Donc ça réduit l'indécision, ça réduit la prise de décision. Puis, en ce qui concerne la méthode Pomodoro, elle est plus axée pour des tâches quand on a un peu de la difficulté à se mettre à la tâche. Tu sais, par exemple, se dire « Oh, il faut que je fasse quelque chose qui est un petit peu rébarbatif, ça ne me tente pas trop de le faire. » À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de se dire « Ben OK, je m'y mets pour 25 minutes. » Je me donne 25 minutes et là, je mets un objectif très, très précis. Hein. Je ne sais pas si je dois organiser, par exemple, une rencontre de fin d'année pour le bal des finissants, mais peut-être que je me dis, OK, là, je rédige le courriel. Je rédige le courriel que je vais envoyer à tous les parents. Ça va me prendre 25 minutes. Et au bout de ces 25 minutes, je me force à faire une pause. Ce que ça fait, c'est que ça accentue un petit peu, ça amène un peu de dopamine à l'intérieur de nous autres parce que c'est le système de récompense qui est activé. Donc, une fois que check, je l'ai fait sur ma liste, j'ai un petit boost de dopamine qui me fait sentir bien. Toi, la dopamine, Sonia, comment tu fais pour te récompenser, tu sais, dans les choses qui sont plus difficiles à faire? C'est quoi ton système de récompense à toi?
Oh, j'avoue, je vais me pencher un petit peu sur le petit point que tu avais glissé dans le webinaire. le chocolat foncé. Quand tu nous avais partagé le document avec les quatre colonnes au niveau de dopamine, voyons, c'était quoi les quatre hormones, je les ai ici sur mes notes. Mais moi, c'est de prendre un petit recul, je me prends une petite croque, Si ça prend dehors, toute seule, quelque chose qui va me récompenser. Je sais que ce n'est pas évident du chocolat. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne routine. OK, je l'avoue, OK? Mais même juste des fois, d'être tranquille dans un coin, oui. Juste d'avoir 10 minutes sur les réseaux sociaux toute seule, tu sais? Tandis qu'il y en a qui aiment des jeux vidéo, qui aiment, tu sais, parler à quelqu'un. Moi, j'aime juste, tu sais, être perdue dans l'espace que je n'ai pas besoin de vraiment penser. Ça, c'est qu'est-ce qui me récompense.
Parfait. Mais ça, c'est important de se souvenir que le système de récompense, il ne faut pas nécessairement qu'il soit bon avec, entre guillemets, notre côté moralisateur. On a le droit de se récompenser avec du chocolat. Si je me récompense avec, je ne sais pas moi, une carotte, ben, bof, si j'aime pas tant les carottes que ça, ça va pas ça va pas vraiment marcher. J'allais donner un exemple sur le céleri, mais j'aime beaucoup le céleri. Alors, c'est quasiment une récompense pour moi. Donc, c'est important de se récompenser avec quelque chose qui va nous créer ce « oh, wow ». Parce que c'est un petit peu dire à notre cerveau, tu as fait un effort soutenu pendant 25 minutes et tu le sais qu'à l'issue de ce 25 minutes, tu vas avoir un 5 minutes de « wow ». Donc, il faut lui donner ce côté « wow ». Je ne vous dis pas de passer à travers la tablette de chocolat, mais juste un petit carré qui fait que c'est du conditionnement. Hein. C'est du conditionnement, si on parle de psychologie, c'est clairement du conditionnement, comme Pavlov l'avait fait avec le chien. C'est « je sais que je fais une tâche difficile et après, je sais que je vais être récompensée. Donc, je sais que je dois tenir 25 minutes et après, hop, 5 minutes de récompense, que ce soit comme tu l'as dit. Ça peut être le chocolat, ça peut être aller faire un tour dehors, ça peut être aller nourrir un petit écureuil qui nous fait de l'œil au parc. Ça peut être d'aller sur les réseaux sociaux, comme tu l'as noté aussi. Peu importe, tant que ça vous fait plaisir. Fait que ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir un petit peu l'apport de cette dose quotidienne, puis dose pour les 4 hormones DOSE, dopamine, oxytocine, sérotonine, endorphine. DOSE, ça peut garder ça en tête, là, ça peut vous aider à vous dire, OK, est-ce que j'ai eu chacune de mes hormones de bonheur aujourd'hui, de laquelle j'aurais besoin un peu plus. Là. Comment tu as trouvé ça, cette fiche d'inspiration DOSE, là, la dose qu'on a partagée, Sonia?
J'ai vraiment aimé le document. J'ai vraiment aimé la façon que ça a été très bien décrit dans plusieurs différentes catégories et plusieurs exemples. Comme le oxytocine, c'était écrit un lien social, mais moi, en tant que personne, des fois, juste avoir des conversations en foule, je trouve ça très... Ça enlève mon énergie. Alors, à la place, je peux peut-être juste... Un sourire de quelqu'un, ça va me donner un sentiment de « OK, je vais être correct, c'est quelque chose qui me fait du bien. » Le sérotonine... Le soleil, la gratitude, juste le soleil. T'as raison, juste prendre une marche dehors. Assieds-toi pour 5 minutes, ça fait du bien à l'esprit. Mais j'ai vraiment pas considéré, comme la façon que tu l'avais expliqué avec le dose, j'ai jamais entendu ça. Et surtout, endorphine, c'est pas quelque chose, c'est pas des mots que j'utilise à la quotidienne. Tu sais? Alors, la façon que tu as intégré ça, dans le jour du jour, j'ai vraiment trouvé ça, c'est illuminant parce que j'aurais jamais réfléchi à ça. Jamais, jamais, jamais.
Oh, merci du partage. Puis, tu sais, je fais du pouce sur ce que tu as dit par rapport à la nature. Là, quand on dit sortir, aller prendre le soleil, il y a une étude qui dit que peu importe ce qu'on fait, si on le fait dans la nature, ça rajoute 30%, comme c'est 30% de bénéfices en plus. Là. Fait que je dis souvent, tu sais, on le voit dans certains pays du nord de l'Europe où les enfants font des siestes dehors quand ils sont à la garderie. Fait que quand vous faites une sieste dehors versus à l'intérieur de votre maison, vous venez gagner 30% de bénéfices. Alors évidemment, si votre voisin ne passe pas la tondeuse en même temps, là, mais dans des conditions optimales, dans des conditions optimales, ça fonctionne super bien de lire à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, d'aller manger à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Fait que, et puis, il n'y a pas besoin d'avoir une grande terrasse. Hein. L'idée, c'est juste de pouvoir être sur à l'extérieur pour connecter un petit peu à la nature puis ressentir les bienfaits des rayons du soleil, même quand il semble faire un peu gris. Ça, c'est 30% de plus. Donc, oui, vraiment intéressant. Une chose qu'on a vue dans ce webinaire-là aussi, Sonia, c'était déléguer, puis toutes les peurs qui étaient en lien avec les peurs de déléguer. Qu'est-ce qui fait que je ne délègue pas? Comment ça t'a parlé, ça?
Je te dis encore, Mélanie, je pense que tu as fait ça exprès juste pour moi. Moi, là, quand tu... Juste la conversation de déléguer un projet, déléguer quelque chose, une activité ou que ce soit une responsabilité, c'est lourd. C'est lourd pour moi parce que je crois que les autres parents en ligne avaient partagé que est-ce que c'est plus de travail de déléguer quelque chose parce que tu as peur que ça ne sera pas fait à ta qualité, à ta façon, à, tu sais, dans ta voix, etc. Puis, est-ce que ça va me fournir plus de travail par après parce que ça n'a pas été bien fait? Je comprends exactement les inquiétudes que les autres parents ont partagées au sujet de déléguer. J'aimerais tellement... Puis, je me lamente, « Ah, ça serait tellement plus facile si quelqu'un d'autre pourrait faire ça. Mm-hmm. » Mais c'est comme tu as... je fais le retour, comme tu as dit, de tu sais la préparation pour les finissants, pour les gradués, les parents. Il y a tellement d'importance sur ce projet. Si je veux déléguer certaines responsabilités, il faut que ça soit bien fait à la tâche, au temps. Sinon, j'ai pas le temps là, d'essayer de gérer qu'est-ce qui a tombé à l'eau. Alors, c'est lourd. C'est lourd de déléguer. Vraiment, c'est lourd.
Mm-hmm. Absolument. C'est difficile de déléguer pour plein de raisons. Tu viens effectivement d'en nommer quelques-unes parce que on a peur que ce soit moins bien fait, on a peur que il va falloir rattraper ça à la dernière minute, donc ça va nous gruger du temps. Y a d'autres personnes qui pourraient avoir peur de partager le crédit. Hein. Des fois, quand on est récompensé en groupe, ben c'est moins sur moi toute seule que ça se porte. Puis c'est correct. Moi, tu sais, les gens disent « Oh, ben oui, mais c'est pas très humble. » C'est correct de reconnaître qu'on a envie d'être reconnu. Une chose souvent, quand je dis que quand on a peur de déléguer, puis que ce soit des fois mal fait, des choses comme ça, puis qu'on veut pas rentrer dans la micro-gestion non plus, parce que c'est pas ça l'objectif, c'est pas de vous rajouter du temps, mais c'est d'avoir des attentes qui vont être très claires. Puis souvent, on pense que nos attentes sont très claires, mais on a oublié de les nommer. Alors, je vous donne une astuce qui tient sur les 5 doigts de la main. Vous avez 5 questions à vous poser quand vous passez un message à quelqu'un d'autre pour être sûr que votre message, il est clair. Vous devez être certain que vous savez de quoi, c'est la première question, de quoi on parle. À qui et de qui je dois en parler? Qui est concerné par cette affaire-là? Le comment on va faire, le pourquoi on fait et le quand. Donc, quand on a ces 5 questions-là, qui sont répondues dans notre tête quand on sait on va commencer à adresser un message, on est au moins assuré qu'il y a une certaine clarté et que les gens vont un peu plus être sur la même longueur d'onde que nous. Évidemment, ça ne vous empêche pas de faire des petits touch base réguliers avec ces personnes-là pour être sûr de voir où s'en vont les choses, pas avec l'intention désagréable de faire du micromanagement, mais vraiment avec une bonne intention de, tu sais, encore une fois, puis là, je vous réfère à l'autre balado numéro 3 sur les conversations difficiles. Quand le projet et les délais ne sont pas respectés, voici comment moi, je me sens et j'arrive avec l'intention de mieux collaborer avec toi. Alors, Sonia, si je devais te laisser un mot de la fin sur développement personnel, harmonie, vie, travail, famille, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire?
Moi, j'aimerais faire un retour sur les réflexions que tu nous avais partagées au tout début du webinaire. C'est qu'il faut prendre du temps à chaque jour pour se demander à quel point te sens-tu en harmonie aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, je me sentais un 13? Est-ce qu'aujourd'hui, je me sentais un 3? Et puis, tu sais, si c'est un 3, c'est pas grave. C'était juste une journée, on n'était pas... tout à fait, tu sais, malade ou ça n'a pas bien été ou quoi que ce soit. Mais vraiment, de se demander un retour à chaque jour, une petite réflexion sur l'échelle de 1 à 13, je me suis trouvée où? Et de savoir comment se auto-réguler. Pareil comme on essaye de partager avec les enfants, est-ce que j'ai pris du temps pour la respiration, pour communiquer avec mon corps. Vous avez partagé le taponnement léger. Juste des affaires simples pour essayer de se reformuler, se recalibrer pour trouver le bien-être en soi.
Absolument. Puis, on dit souvent que le bien-être, c'est pas quelque chose qui est identique d'une personne à l'autre. Donc, j'appuie ce que tu viens de dire en disant trouvez ce qui est bon pour vous. Vous pouvez aller piocher des idées chez les gens, mais gardez ce qui est bon pour vous. Ce qui s'applique aux autres n'est pas nécessairement bon pour vous. Et merci beaucoup, Sonia, pour ce partage encore une fois sincère, inspirant. Alors, tous tes partages, ça nous rappelle qu'il est possible de s'impliquer activement tout en restant fidèle à nos propres besoins, à nos valeurs, à notre bien-être, puis tout en sachant que ça n'est pas facile de le faire. Alors, dans ce parcours de leadership parental, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, hein, mais de faire des choix conscients, de s'entourer, de reconnaître que notre équilibre va influencer notre famille et notre communauté de manière positive. Alors, c'était le dernier épisode d'une série riche en réflexions, en outils et en récits de parents engagés. On espère que vous y avez trouvé de l'inspiration, du courage et même des pistes pour poursuivre à votre manière ce rôle de parent leader bienveillant et authentique. Merci de votre écoute et surtout, prenez soin de vous. Un grand merci au Conseil scolaire Viamonde et son comité de participation des parents pour leur initiative et leur soutien financier dans la réalisation de cette série de balados. Merci Sonia.
Merci Mélanie.